France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient sur France Culture, c'est de l'Égypte copte dont nous allons parler, en partant sur les traces des monastères de la Mer Rouge, de ces premières laures posées en bordure de désert, pour comprendre l'idée folle du retirement du monde, de la pénitence et de cette nécessité impérieuse qu'ont ressenti ces premiers chrétiens de vivre comme des ermites. Pour cette rencontre, je suis avec Nicolas Dia, éditeur et écrivain, qui nous propose son témoignage, un voyage au cœur des monastères du Nil. Humilitas, la naissance des hommes seuls, publié chez Fayard dans la collection Chose Vue, une immersion spirituelle au cœur de l'Égypte contemporaine. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sébastien.
Alors une première question, comment êtes-vous tombé sous le charme de la règle de Saint Pacôme ? Pourquoi l'Égypte ?
Alors, je suis arrivé à Saint-Pacôme pour filer votre métaphore, votre image, tout simplement en partant de Saint-Benoît. Puisque mon premier travail, mes premiers travaux, enfin en tout cas ceux qui précèdent Humilitas, le livre dont vous venez de parler, étaient tous consacrés à des monastères occidentaux, en particulier des monastères bénédictins. Je pense en particulier à l'abbaye de Foncombeau. Et donc, évidemment, les monastères bénédictins suivent la règle de Saint-Benoît. Et ce voyage en Égypte, dont nous allons parler ensemble, son cœur, sa motivation, son origine, c'est de comprendre les origines du monachisme, donc tout simplement de comprendre les origines de mes propres travaux, puisque j'avais travaillé avec des monastères en France, en Europe, et donc j'ai voulu partir tout simplement parce que je ne connaissais pas ses racines. J'ai voulu comprendre finalement mon propre travail.
Ce retour aux sources peut-être d'une certaine manière qui a donné des réponses à ces premiers questionnements?
Alors, des réponses, oui, puisque votre première question, votre précédente question, je n'y ai pas totalement répondu d'ailleurs, c'est effectivement la règle de Saint Pacôme. Et peut-être que dès le début de cette émission, on peut redire à vos auditeurs que la première règle monastique, les premiers monastères, on y reviendra j'imagine ensuite, les premiers moines naissent en Égypte. Et donc effectivement, Pacôme, c'est une des grandes figures égyptiennes, un des grands moines de cette terre, de ces déserts égyptiens, qui suit de quelques dizaines d'années Saint Antoine. Autant Antoine, le fondateur du monachisme, était un ermite, c'est-à-dire qu'il a vécu essentiellement seul tout au long de sa vie religieuse. Il est mort en ermite d'ailleurs, mais il n'a jamais écrit de règles et il n'a jamais fondé de communauté. Il avait des disciples, mais ce n'était pas une communauté organisée. Et le premier à avoir une communauté et à penser à organiser, à rationaliser cette vie communautaire, c'est effectivement Saint Pacôme. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que cette première règle monastique qui naît en Égypte, les Égyptiens la conservent pendant 2 ou 3 siècles. Elle se diffuse à travers Saint Jérôme, qui est le premier à la traduire, et puis ensuite Saint Benoît. Mais en fait, les Égyptiens abandonnent assez vite cette règle. Ils n'ont plus de règles à partir du 7e siècle. Ils n'en ont plus aujourd'hui. Toujours, alors que nous, évidemment, nous l'avons gardé. Et c'est là qu'on voit, alors là, je ne vous apprendrai rien à vous, Sébastien, la différence entre le tempérament oriental et le tempérament occidental. Le tempérament occidental romain qui a besoin de cadre juridique, puisque une règle, c'est quasiment l'étable de la loi, donc on a vraiment affaire à quelque chose de canonique, de juridique, alors que les orientaux étouffent à l'intérieur d'un carcan.
Que reste-t-il de ces traces premières de saint Pacôme dans la règle de saint Benoît telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, telle que vous avez pu la contempler?
Alors, elles sont multiples et on peut tout simplement encore les voir dans l'organisation des monastères. Les monastères coptes qui sont organisés aujourd'hui tels qu'ils étaient déjà organisés au premier temps et dont on conserve d'ailleurs très souvent les traces archéologiques, ce sont des monastères qui sont quasi organisés comme les monastères, j'ai presque envie de dire modernes. Évidemment, ils ne sont pas modernes. Très souvent, ils sont du premier Moyen-Âge. Mais vous allez à l'abbaye de Solesmes, abbaye refondée par Don Guéranger au XIXe siècle, et vous allez dans un monastère de la mer Rouge ou du désert de Sété, à côté du Caire, vous avez exactement la même organisation du monastère, autour du réfectoire, autour de la salle du chapitre, autour des cellules. Enfin, c'est exactement la même architecture, en fait, la même conception architecturale en tant qu'architecture, en tant qu'organisation des différents moments de la journée. Et donc, finalement, cette règle de saint Pacôme, qui explicitait justement ce que devait être le monastère jusque dans son architecture, eh bien, la meilleure manière de le retrouver, c'est les traces archéologiques. Et il y a une espèce de permanence qui est, j'ai même pas envie de dire stupéfiante, parce que stupéfiante, ça impliquerait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire et de mystérieux. Un moine vous dirait que tout ça est absolument normal, puisque c'est ainsi que les moines ont voulu vivre au fil des siècles et se rapprocher de Dieu, parce que tout ça, ce n'est jamais qu'une manière de se rapprocher de Dieu.
Votre livre est sous la forme d'un récit, de voyage. Qui dit voyage dit déplacement. Quel a été le moteur de non pas recherche, mais de cette confirmation sur le terrain de ce que vous pressentiez peut-être?
C'est exactement ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire la confirmation d'abord que tout est né là-bas. Bon, ça, l'histoire n'avait pas besoin de moi pour le comprendre, parce que nous le savons, ça, il y a un mouvement qui se fait autour de la fin du 3e, début du 4e, où le christianisme qui s'est implanté en Égypte à Alexandrie, dans cette terre qui a été une terre ballottée depuis la fin des pharaons par différents envahisseurs, les Grecs, évidemment les Romains. Cette terre, au 3e, 4e siècle, est à un tournant de son histoire. Les pharaons sont évidemment disparus depuis plusieurs dizaines d'années. Il reste une communauté, essentiellement une communauté rurale, une communauté de fellahs, qui sont les Coptes, et qui gardent les traditions, qui sont les derniers à garder les traditions pharaoniques. Et c'est cette communauté qui embrasse de la manière la plus complète l'annonce de l'Évangile, l'annonce chrétienne. Et dans cette communauté naîtront les premiers moines. Alors, pourquoi et comment? C'est évidemment l'importance qui est donnée dans ce pays, ce qui est une évidence, mais il faut l'expliquer, à la fuite au désert, c'est-à-dire au départ du Christ pendant 40 jours au désert. Et l'Égypte, on le dira et le redira jamais assez, c'est un désert, c'est-à-dire que c'est le delta du Nil, évidemment, une nature luxuriante, extraordinaire, verte, autour du Nil, mais c'est un petit bandeau de terre, finalement, ce delta, merveilleux, objet de tous les rêves possibles et inimaginables, mais autour de ce delta, c'est le désert. Et donc, que ce soit dans ce pays, dans cette géographie, j'ai presque envie de dire, dans cette géologie, que des hommes aient le plus pensé à imiter le Christ, parce que c'est en fait exactement ça, c'est l'imitation du Christ, en partant au désert comme lui pour se purifier, c'est presque une évidence. Et en fait, la confirmation, je dirais, la plus forte, quand on va en Égypte et quand on mène le travail que j'ai mené sur le monachisme, sur les monastères, la confirmation la plus forte, c'est que le désert, c'est le centre de tout. Et c'est encore aujourd'hui la lumière qui marque la spiritualité des Coptes, enfin des moines Coptes. Pardon, parce qu'évidemment, les Coptes ne sont pas tous dans les déserts. Ils sont même essentiellement dans les villes, comme tous les Égyptiens. Et donc, voilà, pour répondre de manière, si je puis dire, définitive à votre question, la confirmation de ce voyage, la recherche fondamentale, c'est de comprendre que le désert, finalement, a façonné le christianisme à travers ces monastères qui y naissent.
Ce récit nous permet de mieux comprendre et de mieux percevoir aussi la place de la société copte dans le monde égyptien actuel. C'est un récit contemporain, vous avez voyagé en 2024, donc il y a finalement assez peu de temps. C'est intéressant parce que nous avons peu de retours finalement sur l'Égypte, un pays immense, une culture ancestrale on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus, mais qui est fondamentale dans le monde arabe d'aujourd'hui. Quel a été votre saisissement en rencontrant ces Coptes dans la société égyptienne? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une menace particulière? Est-ce que vous avez senti une société au contraire bien intégrée? Comment les Coptes se projettent-ils dans l'avenir alors que le tourbillon oriental ne va pas forcément dans le bon sens?
Alors, la réponse est extrêmement simple. Il y a une intégration des Coptes. Intégration, d'ailleurs, le terme est un peu fallacieux parce que les Coptes, à travers leurs racines qui remontent à la société pharaonique, ont fondé l'Égypte. C'est la mémoire, en fait. L'islam arrive en Égypte au 7e siècle, c'est-à-dire, bon an, mal an, 7, 8, 9, 10 siècles après les Coptes. En tout cas, après la fin des pharaons. Le copte est naturellement égyptien et l'Égypte est naturellement copte, si je puis dire. Alors aujourd'hui, si on doit regarder tout de même les chiffres, c'est selon les statistiques, c'est assez difficile puisque l'Égypte est un pays assez pauvre et en pleine expansion, mais donc les statistiques sont certainement moins fiables qu'en France ou en Europe. Mais grosso modo, les Coptes représentent entre 12 et 15% de la population sur un pays qui est entre 105 et 110 millions d'habitants. Donc on voit la masse que ça constitue. C'est une population qui possède une élite économique, une élite commerciale, une élite politique. Donc il y a régulièrement des ministres dans les différents gouvernements coptes. C'est une communauté minoritaire, certes, par rapport à l'islam, mais qui a été régulièrement protégée par les différents gouvernements. C'est le cas aujourd'hui de façon totale avec le maréchal Sissi, le gouvernement, le régime militaire du maréchal Sissi, depuis donc 2014. Il y a eu un intermède assez difficile, là il faut le dire, entre la chute de Moubarak, la révolution qui a suivi la chute de ce régime ancien, qui évidemment était un régime qui avait de nombreuses difficultés, et Sissi, il y a l'intermède des frères musulmans. Alors là, il y a eu un certain nombre de difficultés. On a affaire évidemment très clairement à l'islam radical. Donc des attaques terroristes, des attaques d'églises, une série de meurtres qui ont profondément traumatisé la communauté. On a fort heureusement quitté ce moment aujourd'hui. Là, la situation est assez calme. Et je dirais, pour répondre le plus précisément à votre question, que l'endroit égyptien où les choses sont le plus difficiles, c'est le Sinaï, puisque là, il y a les tribus berbères qui, certaines, sont très radicalisées et se sont rapprochées, là aussi, d'un islam radical. Et la situation n'est pas simple dans le Sinaï.
Petit mot sur le Sinaï, peut-être, avec le monastère de Sainte-Catherine, on ne peut pas ne pas en parler, mais qui n'appartient pas à l'église copte.
Oui, alors c'était pas effectivement le cœur de mon voyage. Le Sinaï, c'est effectivement, enfin, le monastère Sainte-Catherine, très exactement, c'est un monastère grec, qui est placé sous la juridiction du mont Athos. C'est évidemment une histoire extraordinaire qui remonte à Sainte-Hélène. Donc, autant dire qu'on est quand même sur quelque chose qui est fascinant. Il y a évidemment une protection particulière qui est accordée au Sinaï, parce que le prophète Mahomet, selon toute vraisemblance, s'y serait rendu et aurait demandé la protection de ce lieu. C'est évidemment un lieu lié à l'Ancien Testament et aux tables de la loi que Dieu remet. C'est un lieu grec. Voilà, pour ceux qui sont familiers de la Grèce, on est évidemment en Égypte, mais c'est une petite enclave religieuse qui est différente de ce qu'est l'Égypte.
Un lieu byzantin peut-être ?
Un lieu byzantin, exactement.
Un mot s'il vous plaît sur l'époque actuelle, sur un personnage assez fascinant que vous avez rencontré, le père Wadid. Je n'oublierai jamais cet homme courbé, plein de souvenirs lavés par la sagesse. Ces mots venaient du ciel. Ai-je un jour rencontré un homme qui savait si bien la valeur du silence ?
Oui, alors le père Wadid, c'est un moine, effectivement, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est moine de Saint-Macaire, le monastère Saint-Macaire, dans le désert de Sété. Alors le désert de Sété, c'est un désert qui se trouve à peu près à 50 kilomètres au nord du Caire, sur la route d'Alexandrie. C'est un lieu immémorial de l'histoire copte égyptienne, puisque c'est une terre monastique, c'est-à-dire que dans ce désert se trouvent aujourd'hui quatre grands monastères, Saint-Macaire, le monastère des Romains, le monastère des Syriens, c'est un petit mont Athos, le désert de Sété. Et dans un de ces monastères, j'ai effectivement rencontré le père Wadid, qui est un vieux moine aujourd'hui, qui a à peu près 80 ans, qui est évidemment copte, et qui a été pour moi, je dirais, l'incarnation de l'âme forte. L'âme forte, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire une personne, un cœur, une âme dont on est absolument certain, sans se poser aucune question, qu'il est immergé en Dieu, et que sa recherche est totalement pure, sans qu'on ait à se poser de questions sur tel ou tel aspect de sa vie, sur tel ou tel aspect de sa croyance. Il y a une espèce de bloc, et ce bloc finalement s'exprime silencieusement. Je ne peux pas vous dire beaucoup mieux que cela. C'est-à-dire que les silences valent autant que les mots. Il parle, il a répondu à mes questions. Il a répondu à mes questions, somme toute assez d'ailleurs classiques, comme je les posais à tous les moines que je rencontrais, sur l'histoire copte, sur l'histoire de cette spiritualité, sur l'histoire de cette église qui est fondée sur les pères et sur les monastères, mais les silences me disaient plus que les mots, encore.
Je vous lis, vous le citez, ces mots tombés comme des petites feuilles dans un champ de coton. Notre profession, dit-il, notre profession monastique est une forme d'enterrement. Le moine est couché sur le sol et recouvert d'un drap. Nous disons la prière des morts. Quand le moine est relevé par notre supérieur, il reçoit un prénom et un nom. Jadis, le prénom était choisi par le supérieur. Désormais, nous proposons aux jeunes de sélectionner le prénom qu'ils désirent. La question des vocations se pose. Dans quel état est justement cette attirance pour la vie religieuse ?
Alors, l'état de la vie monastique en Égypte aujourd'hui, il est en pleine croissance. Il y a une effervescence vocationnelle, c'est-à-dire que il y a environ 5000 moines en Égypte, un peu plus d'ailleurs, 6000 très exactement. Mais il y a une histoire particulière, c'est que les Coptes, le patriarcat égyptien a totalement reconstruit l'église copte dans les années 60 avec un patriarche qui s'appelait Cyril VI autour des monastères. Et donc, pour que vos auditeurs comprennent bien cette situation particulière, l'église copte est en fait finalement une forme d'église monastique, c'est-à-dire que les fidèles, les millions de coptes dont on parlait à l'instant, les statistiques dont on parlait à l'instant, vivent leur foi en partant régulièrement dans les monastères. Donc il y a une place qui est fondamentale accordée aux monastères. D'ailleurs, quand vous allez aujourd'hui dans des monastères en France, en Europe, vous vous attendez tout naturellement, et c'est d'ailleurs ce que vous trouvez, à des lieux extrêmement retirés, et surtout des lieux calmes. En Égypte, quand vous allez dans les monastères, vous tombez immédiatement sur des parkings assez peu réjouissants, évidemment il ne faut pas s'arrêter au parking, mais remplis de dizaines et de dizaines de cars, et de grands cars de tourisme. Et ce sont en fait les Égyptiens, les Coptes, qui viennent dans les monastères pour s'y ressourcer. Parce que les monastères, la rencontre avec les moines, sont le cœur de leur foi, et ce sont les moines qui sont les gardiens de leur foi. Et les monastères ont toujours structuré cette église, et depuis les années 60, il y a cette résurrection, et aujourd'hui, elle atteint, je dirais, son niveau de croissance le plus abouti.
On voyage facilement en Égypte, vous recommandez
On voyage assez facilement en Égypte, pour une raison d'ailleurs assez simple, c'est qu'on voyage assez simplement dans les déserts, parce que les déserts, ce sont des pistes droites, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de virages, et les militaires qui tiennent le pays depuis 10 ans ont beaucoup œuvré en la matière, et donc il y a beaucoup d'autoroutes militaires, et donc on n'est pas sur du 30 km/h. Voilà.
Merci beaucoup Nicolas Dia.
Merci infiniment à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, Humilitas, la naissance des hommes seuls, aux éditions Fayard, et vous le dédiez en hommage aux moines coptes égyptiens à la foi si pure. Je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poinsignon et Emmanuel Couturier pour la technique. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Solae, restez sur France Culture. Bon dimanche.